m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Le 29 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. La RDC, pays membre de l'ONU, bénéficie aussi du travail des casques bleus déployés dans le cadre d'une opération de maintien de la paix depuis 1999. Quels seraient pour vous les préalables pour rendre plus efficace le travail des casques bleus en RDC? Rejoignez-nous sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Sylvain Matondou est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la main, je vous les présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
C'est depuis 1999 que les Nations Unies ont déployé une mission de maintien de la paix en RDC composée à ces jours de près de 18 000 hommes. Mais rappelons que lors de la dernière résolution du Conseil de sécurité, il a été demandé que les effectifs soient revus à la baisse. Mais lors de la célébration de cette journée dernièrement, le ministre de la Justice qui représentait le gouvernement congolais à la célébration de la journée internationale des casques bleus avait souhaité le renforcement des troupes de la MONUSCO, mais notre échange tourne autour de l'efficacité de tout ce qui doit être fait, les actions qui sont posées par les Nations Unies à travers les casques bleus, ainsi que la responsabilité de la RDC dans le maintien de la paix. Comment rendre tout cela plus efficace? C'est la question au centre de notre échange. Patient, vous êtes à Kinshasa, vous allez garder la ligne. Nous avons associé à cet échange professeur Félicien Kabamba du Centre d'études politique de l'Université de Kinshasa. Professeur Félicien Kabamba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je regarde les commentaires des internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, la plupart des gens disent que non, on ne voit pas le travail que les casques bleus font, pourquoi il y a beaucoup de foyers de tension, il y a la paix. Mais dans toutes ces réactions, je ne vois pas souvent les gens parler des actions de la RDC ou de l'armée nationale. Alors, comment on peut expliquer cette compréhension du travail que des Nations Unies à travers les casques bleus dans un pays comme la RDC particulièrement?
Je vous remercie pour m'avoir associé à cette émission. Pour comprendre très bien l'action des Nations Unies en RDC, je crois qu'il faut remonter en 1999 avec la signature en juillet 1999 de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka entre la RDC et les cinq États de la région, l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe. C'est à cette occasion que on a mis en place, par la résolution 1279, la mission des Nations Unies qu'on a appelée MONUC. Et à l'époque, cette mission avait à l'origine, disons, comme objectif d'élaborer des plans en vue de l'observation du cessez-le-feu, du désengagement de forces, de maintenir la liaison avec toutes les parties de l'accord. Et cette mission a été étendue au contrôle de l'application de l'accord de cessez-le-feu. Et je dois vous dire ici que cette première mission a été un modèle pour les missions des Nations Unies. Parce que non seulement elle a réussi à mettre ensemble les différents belligérants, mais il y a eu un accord qui a été signé, un accord qui a été appliqué, qui a été respecté, qui a débouché, si vous voulez, sur la réunification du pays et avec à la clé l'organisation des élections multipartites qui ont donné au pays des institutions démocratiques. Donc si on se réfère à la première mission, ça a été présenté comme un modèle, comme un exemple. En 2010, et c'est là que le problème commence, il y a un changement d'une mission des Nations Unies. On passe de la MONUC à la MONUSCO. Mais quel est le mandat reçu par la MONUSCO? Il y a un la protection des civils. Et là, vous devez voir qui protège les civils. L'État congolais, oui. Les Nations Unies, oui. Mais que fait l'État congolais? Que fait la MONUSCO? Deuxième mission, c'est il devait aider le gouvernement à stabiliser la situation, mais aussi à consolider la paix. Et donc, vous avez là des tâches qui sont confiées à la MONUSCO, mais qui font également intervenir le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement qui est l'acteur principal s'il faut assurer, s'il faut parler de l'ordre public et de la sécurité du territoire. Alors, cette deuxième mission a, si vous voulez, conduit à une reconfiguration de la MONUSCO, donc de la MONUC, en fonction, bien entendu, de l'évolution sur le terrain de la situation sécuritaire, mais aussi de l'achèvement des opérations militaires qui étaient déjà enclenchées dans le Kivu et dans la province orientale. Mais on devait également voir comment le gouvernement allait améliorer ses moyens pour être en mesure d'assurer, si vous voulez, la protection efficace des populations et le renforcement de son autorité sur l'ensemble du territoire. Alors, quand vous regardez cette deuxième mission, vous vous rendez compte qu'elle fait intervenir grandement le gouvernement. Elle tend à responsabiliser le gouvernement. Et donc, la MONUSCO vient en appui. Et c'est de cette manière-là qu'il faut juger la mission des Nations Unies. Mais alors, si vous regardez aussi les difficultés que cette mission a rencontrées, ces difficultés sont à la fois d'ordre géographique. Vous avez la taille de l'État congolais, et d'ailleurs on vous dit que c'est la plus grande mission de maintien de paix dans le monde, avec des effectifs assez colossaux, mais ces effectifs tiennent bien compte de la taille de l'État. Et vous avez à un moment donné, on vous dit oui, mais la mission ne s'est pas déployée à travers tout le territoire national, elle s'est juste contentée là où il y a, si vous voulez, les zones de conflit. Mais on voit ces derniers mois qu'il y a l'extension des zones de conflit vers le centre, notamment avec les phénomènes comme l'Inansapo.
Oui.
Qui amène, si vous voulez, à une nouvelle reconfiguration de la mission, parce que elle était conçue à l'époque pour intervenir dans ce qu'on appelait les triangles, si vous voulez, les zones de conflit de l'Est. Maintenant, les zones de conflit s'étendent vers le centre, ce qui pose à la fois un problème logistique, mais aussi un problème de moyens humains et matériels qui constituent des défis essentiels que les Nations Unies doivent relever. Il y a aussi l'implication de populations, parce qu'il faut absolument que la population s'approprie la mission des Nations Unies. Et sur ce terrain-là, quand vous suivez les uns et les autres parler, vous sentez bien que les populations, probablement qu'il fallait beaucoup, il fallait mieux leur expliquer quelle est la mission des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'est pas concurrente de l'État, elle vient en soutien à l'État, elle vient en appui à l'État. Et donc, il y a une faible appropriation de la mission par les populations. Mais il y a aussi un point très important, c'est le troisième, c'est, si vous voulez, un très faible soutien, une très faible collaboration avec le gouvernement congolais. Et quand vous regardez sur les questions des droits de l'homme, le gouvernement et la mission, c'est véritablement chien et chat. Il y a aussi sur d'autres questions sur lesquelles on constate que, eh bien, les passerelles de collaboration entre le gouvernement qui devait bénéficier de l'appui de la MONUSCO, eh bien, ces passerelles sont extrêmement faibles.
Voilà, on va revenir à vous, professeur. Nous avons les auditeurs qui sont en ligne. Merci pour toute la clarté hein, de cette introduction. Les bases ont été posées. Patient, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, Patient.
Oui, bonjour, Pierrot et la Mégie, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez suivi, voilà. Vous venez de suivre notre invité, le professeur, comment il a posé les bases. Et partant de tout cela, et ce que vous avez dit tout à l'heure sur la page Facebook, comment on peut arriver à assurer plus efficace le travail de casque bleu dans notre pays?
Moi, s'il faut parler du bilan donc pour l'ensemble du pays, la MONUSCO n'a fait que contribuer au malheur du Congolais. À l'endroit où il fallait donc intervenir, elle s'est contentée donc à exploiter nos richesses en connivence avec certaines de nos compatriotes et les transférer dans les pays limitrophes, dans les camions chargés, bien chargés, que nos services aux différentes frontières ont arrêté et identifié dès les biens.
Alors, par rapport à ça, vous avez des éléments, à quel niveau de frontière, patients, le camion ont-ils été arrêtés, identifiés?
même à partir donc de votre chaîne, on était informé de tout ce qui s'est passé donc à l'est. C'est surtout donc à l'est, donc là où surtout c'est passé.
Alors bon. Pour vous, vous estimez que la MONUSCO a plus contribué au malheur que résoudre les problèmes en RDC, c'est ça?
Mais depuis que cette force donc est au Congo, le sang des Congolais n'en cesse de couler. Les massacres restent donc toujours loin de s'en terminer. Les tueries se multiplient donc du jour au jour, comme si la RDC enregistrait son dernier donc épisode. Je ne peux pas affirmer ni confirmer que la MONUSCO a échoué ou réussi sa mission. Mais qu'eux-mêmes nous disent clairement qu'avant leur arrivée, et maintenant qu'ils sont présents au Congo, 15 ans jour pour jour, totalisant ainsi, la RDC a-t-elle avancé?
Mais en réalité, c'est vous la population, c'est vous patients qui pouvez regarder la situation du Congo à partir de toutes les guerres 94-98 jusqu'à maintenant. C'est vous qui pouvez dire si exactement les choses ont évolué en RDC ou les choses n'ont pas évolué. C'est à vous en réalité de juger.
Mais tout cela, nous le vivons donc sur le terrain. Ceci est le terrain depuis donc que la MONUSCO donc a signé donc.
Voilà, merci beaucoup patient pour vous. Les choses n'ont pas évolué. En fait, madame Moïse qui est à Lubumbashi, Moïse, avez-vous le même point de vue que patient que c'est plus la présence de la MONUSCO qui a causé des malheurs? Vous êtes à Lubumbashi, pensez-vous aujourd'hui que les choses ont-ils évolué? Mais si les choses n'ont pas évolué, comment rendre les actions de casque bleu plus efficaces sur terrain, Moïse?
Ah, merci, Gérard, pour m'avoir associé à ce niveau de débat. Pour moi, la présence des casques bleus réjouit la population congolaise, surtout dans les zones touchées par les conflits armés, par exemple au Kivu et au Kasaï. Partout où ils sont, la population se sent à l'aise. Ce sont des hommes bien instruits. Vous constaterez avec moi qu'après leurs interventions armées, ils se dirigent tout bonnement à leur siège, contrairement à nos propres forces de l'ordre. Après l'opération, ils violent et pillent leurs compatriotes. La présence des casques bleus réjouit aussi les membres de l'opposition politique concernant les résidences surveillées qu'on a juste constatées ces derniers temps à Kinshasa, notre capitale. Pour finir, je dirais aussi, le ministre de la Justice a demandé beaucoup de fonds au secrétaire général des Nations Unies pour renforcer les casques bleus. J'ai à leur tour que notre gouvernement mette les casques bleus à l'aise pour bien travailler et consolider la paix dans notre territoire national.
Merci beaucoup Moïse. Tout à l'heure, nous avions Ladislas Israël qui nous a écrit et qui est avec nous sur la page Facebook. Dit ceci: nous avons encouragé la présence des casques bleus dans notre pays, mais nous voyons qu'il y a un problème de paix qui continue. Que ça soit à l'est ou bien au centre du pays, et là il faudrait qu'il n'y ait pas de manipulation et que les casques bleus accomplissent réellement leur travail. Timothée, merci d'être avec nous de Kananga. Bonjour Timothée.
Bonjour Monsieur Perrault, bonjour.
Et pour vous, comment on peut rendre plus efficace le travail qui doit être accompli par les casques bleus?
Oui, bien merci. Moi, je pense que remettre en cause le travail des Nations Unies ou bien de la MONUSCO en RDC serait une ingratitude. Moi, j'apprécie d'abord le professionnalisme qui caractérise ces soldats des Nations Unies dans l'exécution de leur mission, car ils ne s'accordent souvent pas aux bavures et dérapages comme nous le voyons avec certains éléments de nos forces armées et la police congolaise dans notre pays. Grâce à la présence des casques bleus dans les zones plongées dans les conflits armés, les forces de sécurité congolaises ont d'autres fois peur de perpétrer leur sale besogne sur la population civile qui est d'ailleurs victime de toutes ces conséquences de la guerre. Mais ce que nous déplorons souvent à la MONUSCO, malheureusement, ces casques bleus, c'est souvent la passivité dans l'exercice de leur mission. Ils sont encore plus observateurs qu'acteurs pour protéger la population civile, alors qu'ils ont déjà franchi l'étape de la mission d'observation pour devenir une mission de stabilisation. D'ailleurs, conformément au paragraphe 34.1 de la récente résolution des Nations Unies, donc la résolution 2348, cette résolution recommande à la MONUSCO d'assurer une protection efficace et dynamique des civils se trouvant sous la menace de violences physiques, notamment en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de mettre des violations contre la population civile ou en intervenant pour y mettre fin. Mais ce que la MONUSCO ne parvient toujours pas à faire, nous l'avons constaté quand nous avions connu ces drames ici dans notre ville de Kananga, surtout dans la commune de Nganza. Vous vous rendrez compte que quand il y a de l'affrontement entre les miliciens et les FARDC dans la commune de Nganza, la MONUSCO se retrouve à l'aéroport en train de circuler dans leurs véhicules et leurs chars. Alors nous nous demandons, est-ce que quand on est loin de là où se passent toutes ces exactions-là, comment est-ce qu'on peut alors assurer cette stabilité et protéger les civils? C'est pourquoi nous les encourageons d'être actifs sur le terrain, surtout dans les zones où les forces négatives opèrent, au lieu d'être là que pour dresser les bilans et dénoncer les violations des droits de l'homme, alors qu'elles sont présentes pour assurer cette stabilité-là.
Voilà, merci
bref,
beaucoup.
Nous pouvons toujours nous réjouir de la présence des casques bleus dans notre pays, parce qu'ils ont contribué à la recherche et au rétablissement de la paix dans notre pays, bien que la tâche ne soit toujours pas facile, mais nous les encourageons parce qu'ils sont en train de faire quand même un bon travail. Ils sont disciplinés par rapport à nos forces armées qui sont en train aussi de se substituer aux forces armées qui font des viols, les pillages, et les FARDC et la police les font aussi. Alors on se demande comment est-ce qu'on peut se confondre alors qu'on est présumé protéger cette population civile.
Merci beaucoup Timothée. Vous auriez souhaité voir plus d'efficacité dans les interventions des casques bleus. Je crois bien, même la dernière résolution a évoqué aussi cela. Beaucoup de gens souhaitent que les interventions soient plus rapides et qu'il y ait plus de présence quand il y a des affrontements. Et vous avez évoqué les cas de ce qui est arrivé dernièrement au Kasaï. Merci beaucoup Timothée. William, vous êtes à Kolwezi. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour William.
Bonjour Radio Okapi.
Et pour vous, comment on peut arriver à rendre ce travail plus efficace, oui?
Non, moi, depuis tous ces derniers temps, quand j'ai suivi les interventions des uns et des autres, pour nous, ici à Kolwezi, les soldats de la MONUSCO, ils sont là, perceptibles sur la ville, mais si on peut évoquer les cas pour toute la République démocratique du Congo, bien sûr, depuis la présence de la MONUSCO, on ne note rien sur l'intervention de la MONUSCO. Ce ne sont que des troubles qui sont en train. Aujourd'hui, hier, j'étais du côté de l'Est. Aujourd'hui, c'est le Kasaï qui est attaqué. Demain, ça sera peut-être le Lomami. Et le lendemain, ça sera la Lomami. Donc, du tout, pour moi, les analyses que j'ai faites depuis le début des opérations de la MONUSCO, le bilan est négatif. Et la MONUSCO n'est là seulement que pour empêcher peut-être aux militaires congolais d'agresser fortement ou d'intervenir au cas où on a besoin de libérer certains villages. La MONUSCO s'interpose. On dirait peut-être que la MONUSCO fait l'avocat du diable parce qu'il protège et les miliciens et les populations rebelles et les populations du gouvernement, que peut-être si on pouvait laisser nos militaires congolais, ils pouvaient bien agir et bien intervenir, pourquoi pas attaquer même les groupes armés qui se retrouvent à l'est de la République. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, les bienfaits de la MONUSCO. Elle peut même disparaître si le territoire congolais, peut-être nos militaires, pourront bien agir.
Merci beaucoup, William. Vous estimez même qu'il y a moyen même de retirer la mission, l'armée congolaise peut agir. Bon, alors on revient à vous, professeur Félicien Kabamba. Vous avez suivi les uns et les autres les appréhensions. Est-ce qu'on peut dire que le jugement du travail fait sur terrain dépend aussi de la zone dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Quand on peut être à l'est ou au centre ou au nord ou au sud du pays, on peut faire cette analyse-là, professeur?
Oui, il faut dire que à l'est du pays, la MONUSCO est là depuis très longtemps, alors que dans le Kasaï, c'est à peine que les troupes des Nations Unies débarquent et donc les populations découvrent de nouveaux acteurs dans la sécurisation de population. Mais fondamentalement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les avis qui sont divergents expliquent aussi le fait que les Nations Unies doivent faire suffisamment d'efforts pour se rapprocher de la population et doivent mieux expliquer le travail qu'ils sont en train de faire. Ils doivent aussi faire, si vous voulez, une sorte d'anamnèse pour comprendre quelles sont les faiblesses que la mission, que la MONUSCO a enregistrée sur le terrain et comment faire pour améliorer le travail de terrain. Mmh. Et fondamentalement, on constate bien que les missions qui ont été données à la MONUSCO sont aussi des missions que la Constitution a données au gouvernement congolais, c'est-à-dire la protection des civils. Ça, c'est... Alors, il faut éviter que les deux forces n'agissent de manière parallèle. Voilà pourquoi il est nécessaire que les deux missions collaborent sur le terrain. Et s'il y a une véritable collaboration, je crois qu'il y aura une efficacité de l'action de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO ne vient pas sur un terrain vierge. Elle vient là où il y a un État, là où il y a des institutions, là où il y a une armée, il y a une police. Elle ne va pas agir de manière isolée. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une collaboration entre les forces de la MONUSCO et les forces de maintien de l'ordre de l'État pour une efficacité non seulement de l'action du gouvernement, mais aussi de l'action de la MONUSCO. C'est cette collaboration qui peut donner à cette action gouvernement-MONUSCO une plus grande efficacité.
Oui, professeur, mais quand on voit aujourd'hui les faits politiques dans notre pays, chaque fois quand il y a par exemple la communauté internationale qui reproche aux autorités congolaises quelque chose, on a tendance à évoquer les cas de la souveraineté. Est-ce que les discours politiques en termes de souveraineté, de l'indépendance peut avoir de l'influence sur cette compréhension du travail de la collaboration entre les Nations Unies en termes de MONUSCO aujourd'hui avec le gouvernement congolais?
En fait, il est bien de parler de la souveraineté, mais déjà, quand la MONUSCO est arrivée au pays, ça veut dire que le Congolais était quasiment incapable de résoudre eux seuls leurs problèmes. Ils ont eu, si vous voulez, recours à des forces extérieures, et notamment les forces des Nations Unies. On ne peut pas donc avoir les forces des Nations Unies au pays et continuer à crier à la souveraineté. Non, je crois que les Nations Unies, ce que nous devons faire, c'est construire la puissance. C'est construire notre propre autonomie, c'est construire notre capacité à nous prendre en charge et assurer notre propre sécurité. C'est de cette manière-là que nous pouvons dire, oui, nous sommes aujourd'hui souverains, nous pouvons évoluer seuls sans vous. Et aujourd'hui, quand vous regardez les poches d'insécurité et l'état dans lequel se trouve, si vous voulez, l'état congolais, eh bien, on peut bien se demander si nous pouvons encore crier à cette souveraineté aujourd'hui. Non, nous avons aujourd'hui encore besoin des Nations Unies. Tant il est vrai que notre capacité à pouvoir assurer notre sécurité, à pouvoir assurer la protection de tout le monde, eh bien, cette capacité, elle est très réduite.
Mais est-ce que la question peut être résolue seulement sur le plan de cette collaboration militaire? Quand on regarde aujourd'hui la multiplicité des groupes armés à l'Est et aussi les ramifications politiques dans cette question de gestion des groupes armés, est-ce que la question doit être abordée seulement sur le plan militaire?
Non. Disons que ça, c'est l'un des aspects importants, c'est la collaboration entre les deux. Il faut que sur terrain, les deux collaborent pour arriver, et donc la collaboration implique bien le renseignement, les échanges d'informations et tout ça, mais il faut aller au-delà. Et c'est comme ça que, par exemple, il a été également donné à cette mission, si vous voulez, l'objectif d'assurer, si vous voulez, de stabiliser la situation par la démocratisation. Vous savez que quand nous nous sommes retrouvés aussi bien en Afrique du Sud qu'à Lusaka, l'idée c'était que, eh bien, les Congolais cherchent le pouvoir par les armes. Il faut aujourd'hui arriver à dessiner un cadre d'accès au pouvoir qui n'implique pas nécessairement la violence, qui n'implique pas nécessairement la force. Il faut une compétition électorale. Et donc, pour en arriver là, il faut arriver à créer un cadre qui met tout le monde d'accord, c'était la Constitution. Mmh. Et il y a des verrouillages dans cette Constitution. Parmi les verrouillages, c'est qu'il y a deux mandats, il y a la durée de mandat qui est de 5 ans. Il faut donc que chaque personne qui accède au pouvoir respecte et se réfère à ce cadre. Sinon, ne pas se référer à ce cadre, sinon aller au-delà de ce cadre risque de, si vous voulez, de faire retomber la RDC dans tous les démons du passé qui sont les démons de la guerre et des conflits armés. C'est de cette manière-là que cette mission peut nous aider nous-mêmes à, si vous voulez, stabiliser la paix qui a été chèrement acquise. À partir du moment où aujourd'hui les choses ne marchent pas, il ne faut pas regarder vers la MONUSCO. Nous devons être en mesure nous-mêmes de nous dire oui, mais d'où nous venons et où nous allons.
Voilà. On va revenir à vous, 081-890-4969, mais je crois que nous avons des petits soucis des lignes pour les auditeurs qui cherchent à nous joindre. Mais vous pouvez nous déposer aussi votre numéro de téléphone sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Amos, vous gardez la ligne et Alain, qui est ici à Kinshasa, on va revenir à vous.
Oupé. pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Amos, merci de nous avoir appelé. Vous êtes à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour Amos.
Bonjour Pierrot, bonjour aux nombreux auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez suivi en fait, les uns les autres, oui.
Par rapport au sujet au studio, vous savez que nul n'ignore que tout État responsable a comme mission régalienne la sécurité de sa population, ses biens, mais aussi l'intégrité territoriale. Malheureusement, cela n'est pas le cas chez nous, parce qu'il y a des lirettes qu'on assiste à une insécurité totale à travers toute la République, où nous fustigeons du jour au jour la tuerie, les assassinats, les pillages, les braquages, les viols, c'est-à-dire un désordre total, comme tu dirais, on vit dans une jungle. C'est dans ce contexte-là que la communauté internationale, à travers l'ONU, a fini par envoyer les forces de la MONUSCO. Et il y a plus de 10 ans, à peine 15 ans, que les casques bleus sont en RDC. Mais par rapport à ce que nous constatons maintenant, vous allez constater que ce que le peuple congolais attendait de la MONUSCO, ce n'est pas ce que nous vivons. Parce que nous savons que les casques bleus ont une mission de maintenir la paix, d'imposer la paix à la République démocratique du Congo, dans le but de vouloir protéger la population. Mais est-ce que cette population est protégée? Je pense que tout le monde sait le résultat. Et tout le monde qui suit la radio Okapi sait le contexte au sein duquel le peuple congolais vit aujourd'hui, où nous déplorons l'insécurité sur presque toute l'étendue de la République. Je veux bien, comme je te disais, ce sont d'abord les forces congolaises qui doivent nous maintenir la sécurité. Mais avec le pouvoir en place, tout le monde constate que le pouvoir a démontré ses limites, son incapacité, même sa médiocrité à gérer le pays. Voilà pourquoi la MONUSCO est au pays. Mais si nous essayons d'évaluer aussi maintenant le travail de la MONUSCO, vous êtes sans ignorer que c'est au Congo où il y a l'effectif le plus important de forces onusiennes à travers le monde. Et cet effectif est valablement équipé. Mais ce que nous voyons sur le terrain, nous cessons de déplorer le fait que on parvient à tuer les gens, pour ne pas parler de la situation que nous avons vécue à Beni, où nous avons vécu un carnage au moment où il y avait la MONUSCO qui était présente. Là, je ne veux plus parler de nos forces, comme j'étais disant que nos forces ont démonté les limites par rapport à la manière dont le pays est très mal gouverné et la mauvaise gouvernance qui prévaut aujourd'hui au pays. Ce qui se passe au Kasaï avec le Kamuinasap, vous avez même appris qu'on égorgeait les gens dans des zones où la MONUSCO est présente.
Oui, rappelons quand même que la MONUSCO n'était plus présente en termes de troupes au Kasaï. Hein. Si vous rappelez, Mbandaka, Kindu, Kananga, il n'y a eu que des antennes qui sont restées. C'est peut-être après le trouble du Kasaï maintenant que la mission s'est redéployée. Rappelons quand même que Kananga a été fermée. C'est pourquoi beaucoup de journalistes des radios Okapi qui étaient à Kananga ont été rappelés à Kinshasa parce que beaucoup de bureaux ont été fermés. C'est après maintenant qu'on demande à la mission de se redéployer.
Parlons maintenant de Beni. À Beni, le casque bleu était là. Même ici à l'Est, ils sont venus, la MONUSCO est venue soi-disant qu'on va mettre fin à la présence de groupes armés internes, même étrangers. Étrangers. Mais est-ce que ces groupes n'existent pas aujourd'hui? Les interams sont encore au Congo. Même les groupes armés au niveau interne sont là. Moi, je pense que ce que nous avons de vivre aujourd'hui avec la MONUSCO, on demandait à la MONUSCO de changer peut-être sa manière de travailler. Parce que la manière dont la MONUSCO est en train de travailler commence à donner une impression à la population de penser que la MONUSCO est en train de laisser faire la situation pour justifier sa présence le plus longtemps que possible en RDC, ce qui est très grave. Parce que tel que nous l'avons vécu au Burundi. Ils sont venus, les forces onusiennes sont parties imposer la paix au Burundi, mais elles n'ont pas beaucoup traîné. Mais ici chez nous, vous savez que quand on traîne, on tombe dans la routine. On ne sait plus quoi faire et comment le faire parce qu'il y a un problème sérieux de commencer maintenant à rentrer. Si c'est faire, on est dans une confusion totale. Moi, je pense que tel que nous vivons l'insécurité aujourd'hui, là, je ne peux plus évoquer les cas que nous avons vécu au Katanga avec les pygmées. Là, il y avait la MONUSCO aussi, mais on a connu les mêmes problèmes. Voilà pourquoi nous disons, je pense que tel que nous vivons la situation aujourd'hui, on ne veut pas que la MONUSCO parte au moment où nous tendons vers les élections, nous savons, les pouvoirs en place, comment ils ne veulent pas que les élections s'organisent. Nous avons encore besoin de la MONUSCO, mais la MONUSCO devait changer sa manière de travailler
pour continuer à
garder la confiance de la population, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont déçus de la manière dont les quatre bien font leur travail par rapport à l'insécurité qui prévaut sur le terrain et dont la population congolaise est victime.
Merci beaucoup Amos, vous auriez souhaité voir les casques bleus travailler d'une manière plus efficace, hein, parce que beaucoup de gens reviennent sur cette question des protections des civils et comment on peut arriver à protéger les civils s'il y a par exemple des exactions qui se commettent dans des zones de déploiement. Alors pour vous, il faut que cette manière de travailler puisse changer, sinon on risque de tomber dans la routine, hein, et c'est tous ces jugements vient du fait qu'on risque de tomber dans cette routine, qu'il n'y a pas d'initiative parce que l'insécurité, les groupes armés persistent encore, que ce soit à l'Est. Merci beaucoup Amos, on revient ici à Kinshasa. Alain, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à votre invité.
Alors pensez-vous Alain aujourd'hui qu'on puisse aller au-delà dans toutes les résolutions, on évoque la protection des civils comme mission principale, bien sûr de force de la MONUSCO, mais est-ce qu'il faudrait donner à cette mission de protection des civils une autre dimension qui doit quand même donner cette impression auprès de la population qu'il y a un travail qui s'est fait, surtout qu'il y a persistance des foyers d'insécurité, des groupes armés et des tueries qui continuent.
Bon, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un jour où la MONUSCO doit quitter notre pays. Mais je suis de ceux-là qui pensent que nous devons aussi reconnaître que les efforts fournis par la communauté internationale et le sacrifice consenti par les citoyens du monde, qui sont les casques bleus. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas congolais. Ce sont des gens qui se sentent engagés pour imprimer ce que nous appelons les valeurs cardinales qui constituent le socle même de la communauté internationale, la paix. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour nous. Et donc nous sommes appelés aussi à reconnaître leur degré de sacrifice et leur abnégation et faire en sorte que nous ne soyons pas trop ingrats par rapport à ce qu'ils font. Et j'ai dit, le problème ne se situe pas au niveau des acteurs, les gens qui sont venus, c'est-à-dire les casques bleus qui sont venus pour se sacrifier, mais c'est plutôt au niveau de la conception de la communauté internationale et de l'influence qu'ont certains États sur cette communauté internationale qui ne se voit que par les Nations Unies. Nous avons reçu depuis près de 2 décennies déjà la MONUSCO et la mission était apparemment claire. La présence de la MONUSCO s'est justifiée vers les années 96-98, voire même jusqu'en 2003, tout simplement parce qu'il y avait un problème politique, militaire, et qui mettait en mal la fibre sociale. C'est comme ça que nous avons salué la présence de la MONUSCO. Mais lorsqu'on prend en termes de durée des actions, on se rend compte que comme l'a dit mon prédécesseur, ça devient de la routine, ça devient ça développe, ça donne l'impression d'être une affaire, un deal où nous sommes plus dans les affaires que dans la sécurisation. Parce que si nous prenons en termes d'efficacité, on ne peut pas dire aujourd'hui que la MONUSCO a réussi à sa mission. C'est vrai qu'il y a des groupes armés qui ont disparu, mais il y a d'autres qui se sont criés au fil du temps. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de responsabiliser. Nous ne pouvons pas prendre le risque de responsabiliser la MONUSCO par rapport à ce que nous utilisons comme pression. Mais au moins, nous pouvons mettre en évidence la responsabilité de la communauté internationale. Parce que la plupart des mouvements armés qui se créent sous la bénédiction de la communauté internationale ou carrément sous la bénédiction de certains pays voisins. nous avons plus de près de 9400 km linéaires de frontières. Mais dans la plupart des cas, c'est la partie Est qui est le ventre mou de la République. On connaît les responsables. Nous pouvons citer le Rwanda, nous pouvons citer l'Ouganda. Ce sont des pays qui sont connus et qui sont membres de la communauté internationale. Mais lorsqu'on met l'accent sur la présence de la MONUSCO, dès lors que ces pays-là ne seront pas sanctionnés, naturellement, la MONUSCO risquerait de trouver toujours des astuces pour rester. On doit plutôt penser à sanctionner certains pays qui prennent le courage de violer les grands principes qui constituent le socle même de la communauté internationale. Lorsqu'on nous attaque et que la communauté internationale donne l'impression de ne pas connaître la réalité, alors que nous savons avec la signature de l'accord de l'Addis Abeba, cette même communauté internationale a reconnu l'implication ou la dimension internationale de la crise qui se vit en République démocratique du Congo. Donc moi personnellement j'ai dit, je salue la bravoure, je salue l'abnégation manifestée par le casque bleu, mais je me pose quand même la question par rapport à au fonctionnement de la communauté internationale plus précisément des Nations Unies, qui donnent l'impression d'être incapable de faire face aux enjeux de certains États. Donc voilà pourquoi j'ai dit la MONUSCO en soi n'est pas le problème. On a déployé des gens, on a donné des armes, mais il reste discipliné par rapport aux orientations qui viennent d'en haut. Si aujourd'hui on disait à la MONUSCO d'imposer la paix en République démocratique du Congo, la première chose, c'est de sécuriser les frontières. Parce que la plupart des faits qui se sont enregistrés au niveau interne ne sont pas si fatales que ceux que nous avons connus à l'Est avec le Rwanda et l'Ouganda. Donc, quelque part, le problème n'est pas au niveau de la MONUSCO, le problème est plutôt au niveau des Nations Unies.
Et de la communauté internationale. Merci beaucoup. Vous auriez aimé voir la communauté internationale agir d'une manière plus efficace en amont. Cela veut dire le pays qui sont souvent accusés d'agresser la RDC ou de servir des bases arrière pour des groupes armés qui viennent déstabiliser le pays. Et comme ça peut rendre le travail de casque bleu encore plus efficace, plutôt que leur permettre de travailler sur terrain et qu'on tombe dans la routine et que d'un côté, ceux qui sont accusés ou à la base de la manipulation de la situation sécuritaire ne soient pas inquiétés. Et là, ça va être très difficile. Vous estimez que le travail, c'est pas au niveau du terrain, mais c'est un peu plus au niveau de des relations entre les Nations Unies ainsi que les autres membres des Nations Unies qui sont dans la globalité de la communauté internationale. Merci beaucoup, Alain. Maître Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, le professeur Kabamba Félicien, et à tous les auteurs de la radio pratique qui me suivent en ce moment.
On vous écoute, Gervais.
Oui, par rapport à la mission, au bilan du travail des agents de casque bleu, depuis le 30, disons, commençons à partir de la MONUSCO qui a été créée le 30 novembre 1999 par la résolution 1279. Parce que la MONUSCO a essayé de travailler bien avant que qu'elle soit transformée en MONUSCO de juillet 2010. Aujourd'hui, nous voyons quelque part que pour bien relever le défi de la MONUSCO, il faut qu'on puisse aussi renforcer la capacité de la brigade, comme c'était le cas avec la MONUSCO à l'époque et les résolutions 1565. À l'époque, il y a eu même des forces supplémentaires, des troupes qui étaient ajoutées par rapport à...
Dommage qu'on vient de perdre Maître Hervé de Calémie pendant qu'il était en train d'expliquer. Sur la page Facebook, Jean-Pierre Tinaï, qui est à Kananga, estime que le casque bleu travaille bien, mais il est nécessaire de relever certains défis, comme par exemple la sécurisation de la population de l'espace Grand Kassai, en collaboration avec le FARDC. Je crois que si le travail est fait d'une manière plus efficace, la guerre peut finir au Kassai. On va accorder d'ailleurs la parole à José, qui est à Kananga. Merci d'être avec nous en ligne. Bonjour José.
Bonjour Pierrot et bonjour Alévi.
On vous écoute José.
Oui. Tel que je l'ai dit sur votre page Facebook, la MONUSCO en soi et les casques bleus n'ont pas de problème. Les problèmes se trouvent au niveau du gouvernement. Parce que la mission principale de sécuriser la population, donc la mission de maintenir la paix dans le pacte comme. Mais malheureusement, nous voyons que lorsque le casque bleu arrive sur terrain, ils n'ont pas accès à certains points où ils peuvent maintenir la paix. Parce que si l'État congolais a reconnu le casque bleu, c'est par rapport à des faillances qu'on a trouvées dans les chiffres de la PNC, des APC. C'est pour ça qu'on a demandé une rescousse à la communauté internationale qu'on envoie les casques bleus à l'écrit de France. Mais lorsque ces casques bleus arrivent ici, il n'y a plus encore de. Ils n'ont pas vraiment accès au territoire pour sécuriser. Je donne un exemple spécifique pour faire par rapport à ce qui se passe ici à Kamanga. Nos FRDC, les Congolais comme nous, ils commettent des impunités qui sont vraiment à haut niveau. Lorsque sept soldats violent une maman qui est une maman porteuse d'une grossesse de 5 mois, par exemple, chaque jour on enregistre des cas de viol, soit 5 cas, 15 cas, parce que nous travaillons sur ça dans notre structure. Mais si c'est par exemple le casque bleu, la monnaie, c'est pas comme ça, on ne peut pas avoir beaucoup de cas de viol. Moi je pense que c'est l'État congolais qui est opposable partout. C'est l'État congolais qui est l'ennemi de ses citoyens. Et la communauté internationale aussi s'impose, parce que lorsque on recourt à ces casques bleus là, c'est pour qu'il y ait quand même la paix. Et la communauté internationale s'impose pour intensifier des services de casques bleus dans tous les territoires congolais. Malheureusement, si vous vous êtes à Kananga, il y a qui est au centre-ville ici, et pendant la journée, vous voyez les casques bleus marcher, faire des patrouilles diurnes et consorts. Mais pendant la nuit, ce sont les policiers à qui nous avons déjà retiré la confiance, et ce sont des FRDC qui violent les femmes enceintes, qui violent les enfants dans la présence de leur mère, qui violent les mères dans la présence de leurs enfants, et ce sont eux qui font les patrouilles nocturnes. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que...
Mais voilà, merci beaucoup, José. Mais rappelons quand même, comme vous l'avez dit, qu'on les déploie partout. Hein. Ils ont été à Kananga dans le temps, en Bujuma et partout ailleurs. La mission a été reconfigurée en fonction de l'évolution de la situation. Et la situation du Kasaï vient encore s'ajouter, comme le disait le professeur tout à l'heure. Et vous auriez souhaité le voir déployé ailleurs. Mais pour vous, le problème, c'est pas les casques bleus. Le problème, c'est du côté du gouvernement congolais qui doit faciliter le travail des casques bleus, leur permettre l'accès au territoire. Professeur Félicien Kabamba, vous avez suivi quand même, il y a une dimension qui s'ajoute ici, c'est que notre ami Alain disait tout à l'heure par rapport au rôle de la communauté internationale d'une manière globale dans ce qui doit être fait comme travail. Les casques bleus travaillent sur terrain, la MONUSCO sur terrain, mais ces pays se retrouvent au milieu de ces conflits qui impliquent de ses voisins. Alors on aurait aimé voir une position claire de la communauté internationale, et comme ça cette position peut faciliter le travail de la mission en RDC, professeur. Professeur Félicien? Professeur, on a des petits soucis, je crois bien, avec la ligne du professeur. Oui, professeur, vous êtes avec nous?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, c'est bien, c'est bon maintenant, oui, vous pouvez intervenir, oui.
Oui, il est vrai que notre conflit a une dimension régionale, et l'implication de pays comme l'Angola, comme le Rwanda, l'Ouganda, la réussite de la mission est très importante. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous voyez, la Tanzanie a déployé des éléments importants de la brigade d'intervention. Et donc, il y a là une dimension régionale importante. Et il faut tenir compte de ces aspects, mais il faut aussi savoir que tous les pays frontaliers ne sont pas nécessairement de véritables amis de la RDC. Et donc, outre le fait que nous devons tenir compte de la dimension régionale, nous devons d'abord nous-mêmes avoir notre politique interne, une politique robuste, une politique efficace de sécurisation des Congolais. Et c'est peut-être là que nous avons beaucoup d'efforts à conjuguer. Mais il faut aussi dire que partout où les missions des Nations Unies se sont déployées, on a on a pu noter qu'il y avait des dérapages, hein, des dérapages du genre cas de viol sur mineurs. On a aussi enregistré ça chez nous. Il y a aussi des cas d'implication de certains éléments de l'ONU dans les trafics de minerais. Donc, il y a des dérapages qu'on constate pratiquement dans toutes les missions de Nations Unies dans différents pays. Mais ce n'est pas cela qui empêche les Nations Unies à faire le travail de maintien de l'ordre, donc de maintien de la paix. Et l'un des grands problèmes que nous devons, que les Nations Unies devront définir en RDC pour réussir la mission, c'est qu'ils doivent avoir à élaborer une stratégie rationnelle de sortie de la RDC.
Mmh.
Beaucoup d'intervenants sont revenus sur le fait que la MONUSCO ne devra pas rester chez nous éternellement. Non, la MONUSCO devra un jour se retirer de la RDC. Ils ont déjà fait plus de 15 ans, et donc il faut qu'il y ait une stratégie rationnelle de sortie de la RDC. Et cette stratégie devra être basée sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, le premier élément, c'est le transfert de la capacité, si vous voulez, de protection et de sécurisation du territoire. Et cette capacité, on trouve que la MONUSCO est mieux équipée, elle a des troupes plus aguerries, elle a des gens beaucoup mieux formés, et donc il faut qu'il y ait un transfert de cette capacité de la MONUSCO vers la RDC. Et pour qu'il y ait ce transfert, il faudra absolument que ça passe par la formation, par l'équipement, mais il faudrait aussi que la RDC monte en puissance par des véritables politiques de sécurisation qui sont volontaires et qui sont mieux élaborées. Deuxièmement, il faudrait que les Nations Unies aident à la transformation de la RDC en un espace d'exercice de la démocratie, mais aussi un espace de respect des droits de l'homme.
Mm-hmm.
Et c'est sur ces questions-là qu'il me semble qu'il y a des grandes divergences entre la MONUSCO, si vous voulez, l'ONU et le gouvernement congolais.
Mm-hmm.
Si bien qu'aujourd'hui, on est tenté de dire qu'évidemment, il y a la MONUSCO, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faudra réajuster, mais une grande part revient aussi au gouvernement congolais.
Oui.
Il y a beaucoup de choses à améliorer.
Mm-hmm. Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs. Hein. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Maître Gervais, on va revenir à vous. Vous êtes à Kalemi. En attendant, Maître Sonville, vous nous avez rejoint quand on a perdu tout à l'heure Maître Gervais de Kalemi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à notre invité.
Mm-hmm.
Par rapport à la thématique, moi, je dirais que le travail fait par la MONUSCO, il est louable. Comme de même, on a toujours dit que une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Parce que je suis au Katanga, nous avons vécu le cas du triangle de la mort avec M. Gédéon. Quand il est rentré en pompe accueilli par l'ex-gouverneur M. Kazembe, la MONUSCO a fait un grand travail et a même arrêté M. Gédéon pour le transférer devant la justice congolaise. Ça, c'est une chose. Par rapport toujours à la MONUSCO, en son temps, il y avait des partis politiques qui avaient des groupes armés tels que le RDC Goma, là où il y avait les Lambert Mende, les Tamouambay Consort, MLC avec Jean-Pierre Mbemba. La MONUSCO a tout fait pour pacifier cette partie-là, qui était envahie par ces groupes armés. Et c'est pour cela qu'il y a même communication, il y a même la vie au niveau de l'Est. Hormis cela, aujourd'hui je dirais ceci, c'est l'Union africaine qui est en train d'entraver la mission de la MONUSCO par rapport au syndicalisme des dictateurs, des présents dictateurs. Parce que l'Union africaine devait appuyer la MONUSCO dans ses œuvres. Lorsque l'Union africaine ne veut pas qu'il y ait la démocratie dans des pays, il ne veut pas qu'il y ait la bonne gouvernance. Il est toujours à l'encontre de la mission de la MONUSCO. C'est l'Union africaine. Nous sommes en Afrique, l'Union africaine devrait donner un coup de main à la MONUSCO pour que la MONUSCO arrive à accomplir la mission qui a été dévouée.
Mm-hmm.
Au-delà de ça, nous demandons maintenant à la MONUSCO de faire ceci. À tout moment qu'il y a des manifestations au niveau du Katanga, nous sommes envahis par la police, nous sommes envahis par l'armée. Que la MONUSCO, puisqu'elle a reçu mandat de la protection des civils au regard de l'article de la résolution 2348, il faudrait que la MONUSCO soit présente pour nous protéger, nous les civils, puisque nous voulons manifester pacifiquement. Or, c'est différent de ces gens-là qui sont arrêtés aujourd'hui au niveau du parquet, qui étaient avec des machettes, des gens de la majorité. Nous, rassemblement, nous avons toujours été attaqués par la police. Nous voulons que cette MONUSCO, à qui nous avons beaucoup d'estime, qu'elle puisse nous assister dans nos manifestations pour essayer un peu de barrer la route à notre police.
Mm-hmm.
Parce que nous, quand nous sommes sur le terrain, c'est pour une manifestation pacifique et nous voulons communiquer avec la population. C'est à travers voilà, la communication merci. Avec la population qu'il peut y avoir la calmie. À ce merci. Moment-là, nous dirons que la MONUSCO a fait son travail.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Voilà.
Nous avons adressé même un mémo auprès de MONUSCO Katanga pour qu'il y ait une harmonie entre le pouvoir provincial et nous rassemblement, qu'on nous laisse vaquer paisiblement à nos préoccupations.
Voilà. Mais rappelons quand même que dans la résolution, vous avez évoqué 2348, il y a aussi la question des bons offices de la MONUSCO hein, par rapport à la conciliation des points de vue sur les plans politiques. Mais vous auriez souhaité, à ce qui concerne la protection des civils, voir la MONUSCO se déployer chaque fois qu'il y a des manifestations publiques. Merci beaucoup. Mais vous avez quand même hésité, vous estimez que la prise de position ou la façon de travailler de l'Union africaine ne permet pas à la MONUSCO d'accomplir sa mission comme il faut. On va terminer avec vous, Gervais. Vous étiez en train d'expliquer, mais malheureusement, on vous a perdu. Et en une minute, pour compléter votre point de vue, Gervais.
Oui, nous disons que tout être humain ne manque jamais d'imperfection. Nous saluons beaucoup plus de mission, soit le travail de la MONUSCO, mais nous aimerions que cette fois-ci, comme le temps fait des mots, il y a seulement renforcement des troupes au sein de la brigade de la Décade Québé, parce que nous saluons et disons que la MONUSCO est en train de faire son travail. Parce que nous voyons même dans la civile, je vois qu'il y a des crises tempestives, la MONUSCO est en train d'intervenir sur ça, nous comptons beaucoup plus.
Merci.
Il y a seulement des améliorations, comme c'était le cas avec la MONUSCO, avec la résolution 1565, où il y avait d'ajouts supplémentaires de troupes, 5900, donc le 15, le 14 février 2005, avec des réalisations pareilles, donc la création des commandements, comme c'était le cas donc à Kisangani, c'est qu'il y ait un peu renforcement, et ça, parce que nous aurons et nous apprécions beaucoup la MONUSCO.
Merci beaucoup, Maître Gervais. Vous souhaitez qu'il y ait renforcement, mais rappelons quand même que le gouvernement avait sollicité lors de la prorogation du mandat qu'il y ait effectivement diminution des troupes. Le professeur insistait tout à l'heure sur les transferts des capacités, des compétences, parce qu'il faut un jour que la mission se retire. Merci beaucoup, Gervais. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Dommage pour ceux qui ne peuvent pas nous joindre en direct sur nos deux lignes téléphoniques où nous avons des petits soucis qui seront tout à l'heure là à régler. Et Ismaël Mupoyi estime que le travail devait être très visible hein, à travers le pays, vu l'immensité des problèmes que nous avons, et la collaboration devait être très franche entre les casques bleus et les FARDC. Professeur, on revient à vous en deux minutes pour conclure cet échange. Il y a Maître Sonville qui évoquait tout à l'heure la protection des civils, les manifestations, la conciliation en termes de bons offices, c'est là évoqué dans la dernière résolution. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer cette émission?
L'opération de maintien de la paix en RDC, je crois qu'elles ont beaucoup évolué hein, vers une gamme beaucoup plus large de missions qui sont allées de la simple prévention à la supervision des élections, à la démocratisation, assistance humanitaire, désarmement, démobilisation, réintégration, protection des droits de l'homme. Et donc tout ça, c'est un éventail assez important de missions qui ont été, si vous voulez, allouées à la MONUSCO. Mais alors, ce qu'elle devra faire, moi je crois très sincèrement qu'il faudra que la MONUSCO fasse tout ce qu'elle peut faire pour une plus forte appropriation de sa mission par les populations locales. Parce que ce sont ces populations qui doivent un jour témoigner que nous avions été aux côtés de la MONUSCO et voilà ce que la MONUSCO nous a apporté. Deuxièmement, il faut véritablement accroître et l'accroître très sensiblement la collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. C'est de cette manière que cette synergie peut, si vous voulez, déboucher sur des résultats beaucoup plus efficaces.
Merci beaucoup, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle que vous êtes du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Ceux qui tentent de nous joindre en direct, qui sont inquiets, c'est vrai, nous avons des petits soucis des lignes sur les appels entrants. Mais désormais, en attendant que les lignes soient rétablies pour les appels entrants, vous pouvez chaque fois nous déposer votre numéro de téléphone sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et nous pouvons vous rappeler sans problème pour intervenir dans cette émission. Et on se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Mais, il
ne répondent pas.
Sylvain Matundu était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la main, je vous l'ai présenté. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Le rendez-vous est pris demain à la même heure pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci pour votre sympathique attention et surtout votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.